Droit au mont et sa mine. Droit au mont. Le nom des premiers seigneurs a été celui de la seigneurie de Droit au mont. En 1332, Ignon de Droit au mont prend possession de la seigneurie de Droit au mont. En 1334, le village va changer de propriétaire. Les Apremont, les Armoises, et à partir du XVIe siècle, les De Gourcy. Les De Gourcy sont originaires de Luxembourg. Ils faisaient partie de la haute noblesse, fréquentaient la cour du prince, étaient membres des états du pays. C'est leur blason qui est devenu celui de la ville de Jarny. En 1530, le domaine de Droit au mont appartient pour une moitié à Didier Pillard et l'autre moitié à Gérard de Gourcy, déjà seigneur de Ville-sur-Iron. En 1810, le village et le ban de Droit au mont, commune de 1793 à 1811, puis rattaché au village de Jarny. La construction du pont de pierre sur l'Iron, en 1880, rattache définitivement Droit au mont à la commune de Jarny, qui s'agrandit d'environ 300 hectares et de 90 habitants à vocation rurale. Dans les années 1880, des prospections géologiques ont lieu à Jarny, Giraumont et Droit au mont. En 1884, des sondages sont réalisés jusqu'à 227 mètres de profondeur. Le 5 août 1887, une concession minière est accordée aux établissements Schneider du Creusot. Les Gueulejaunes. Fiers d'être mineurs, malgré ce travail dur, dans les galeries noires, de l'eau, de la boue, il fait froid, l'air est saturé en humidité, la température est entre 12 et 13 degrés, la teneur en oxygène est moindre, l'éclairage est celui de la lampe à carbure, de la lampe frontale ou celui des engins. Les conditions de travail sont difficiles dans ce milieu hostile. Le fer, quelle histoire ! Le fer fut travaillé beaucoup plus tard que l'or, le bronze ou le cuivre. La difficulté était sa température. Durant des siècles, des bas-fourneaux étaient utilisés de petites dimensions, environ 100 litres pour une hauteur de 1 mètre. La température atteignait 1200 degrés avec difficulté. Des bijoux et des armes furent retrouvés dans des tombes de pharaons datant de 1300 avant Jésus-Christ en France. Le travail du fer se développa vers 450 avant Jésus-Christ. Il fallait énormément de bois. 25 stères pour obtenir 50 kg de fer. C'est au XIIe et XIIIe siècle que la technique évolue. Les hauts fourneaux apparaissent. Les températures augmentent, elles avoisinent les 1400 degrés. Les forges se multiplient, ce qui entraîne un mécontentement de la population qui se chauffe au bois, puisque la consommation pour une année peut aller jusqu'à 80 000 stères de bois, d'où une déforestation importante. La Lorraine, son époque faste. En 1929, la production en France est de 50,7 millions de tonnes de minerais, pour la Lorraine, et à cette époque, la France comptait 40 000 gueules jaunes. Elle occupait la deuxième place mondiale après les USA en 1959, juste derrière l'URSS. La France devient la première exportatrice au monde, dont la Lorraine, première région productrice du monde. L'extraction de la minette représente 3 milliards de tonnes pour environ 60 000 km de galeries creusées. On comprend mieux pourquoi les gueules jaunes étaient si fiers de leur métier. Vers 1870, le mineur, d'origine paysanne, en fonction des saisons, partageait son temps entre les champs et la mine. Il était un travailleur indépendant, il payait son matériel et pouvait avoir des employés. Dans les années 1900, la demande en minerai augmente considérablement. La main-d'œuvre locale devient insuffisante et les mines font venir des Italiens. Après la Première Guerre mondiale, d'autres travailleurs étrangers furent embauchés. Le carreau de la mine. Carreau, mot désignant le sol, endroit où l'on range sur le sol. Le carreau de la mine, c'est l'endroit où se font les activités dites de jour. Il sert d'entrepôt aux produits et divers matériaux. C'est le haut de l'iceberg. Toutes les activités se passent au fond, dans les galeries. Le cordon qui relie les deux est le puits, pour le voyage des hommes, le transport du matériel et du minerai. Lorsque le mineur prend son poste avant de descendre, il passe à la lampisterie, prendre sa lampe individuelle et accroche son jeton au tableau de contrôle pour signaler sa présence et l'enlève à la remontée. Au fond, l'exploitation. Au début du XVe siècle, le mineur utilisait des outils classiques, pioche, pelle, masse, pic. Le mineur creusait suivant la dureté du minerai. Les galeries étaient petites, 80 cm à 1 m de largeur pour 1,50 m à 1,80 m de hauteur. Le minerai était sorti dans des hottes à dos d'hommes sans lumière. Dès 1835, utilisation d'explosifs qui permettra d'exploiter les roches plus dures et d'élargir les galeries qui deviennent rectilignes. Vers 1840, possibilité de poser des voies ferrées. Toutes les galeries sont suivies, mesurées, répertoriées sur plan, classées par une équipe de géomètres et de dessinateurs. Une autre organisation du travail est mise en place. Composition d'équipes de travail, 6 à 8 mineurs, l'horaire de travail de 8 heures en faisant les 3-8. 6-14, 14-22, 22-6 heures, 5 ou 6 jours par semaine et repos le dimanche. Chacun a un rôle bien déterminé et est tributaire de l'autre. Les opérations sont faites dans un ordre précis, l'équipe doit être solidaire, la sécurité de chacun en dépend. Foration. Vers 1840, apparition de la poudre noire. Elle soulagea le travail. Différents explosifs vont suivre le bâton dynamite, tir à l'explosif solide, l'oxygène liquide, tir au nitrate fuel, nitrate engrais azoté mélangé à du fuel. Des trous étaient percés, la foration, avec une mèche à pierre entraînée par un vilebrequin que le mineur poussait. Vers 1910-1915, apparition de marteaux perforateurs pneumatiques, ce qui demanda un matériel beaucoup plus important. En 1955, cette foration à main disparut. Elle est remplacée par des chariots de foration avec lissière, se déplaçant sur rail et ensuite sur pneus. C'est le jumbo. Sondage-purgeage. Dès que les explosifs ont fait leur travail, des tonnes de minerais sont au sol. Des morceaux de roche peuvent rester collés aux parois et se détacher, représentant un danger pour les mineurs. Avant le chargement du minerai, une opération de sondage est effectuée par un mineur qui, à l'aide d'une barre de fer, sonde les parois et le toit en fonction du son, sonne plat ou sonne creux, indication de non-adhérence d'un bloc. Il faut le faire tomber. C'est le purgeage. Vers 1970, le purgeage se mécanise avec des engins de travaux publics munis d'un bec au lieu d'un godet. Le chargement. Les premiers mineurs chargeaient le minerai dans des hottes et ce sont les femmes et les enfants qui portaient le minerai sur le dos pour le sortir au jour. En 1841, on pose des voies ferrées. Durant un demi-siècle, les wagons sont en bois d'une capacité de 700 kg. Les wagons étaient poussés à la main et vers 1850, ils sont tirés par des chevaux. Les wagons de fer apparaissent vers 1890 pour une capacité d'une tonne et demie. La locomotive électrique arrive vers 1900. Les berlines sont de plus en plus importantes, elles vont jusqu'à 60 tonnes. Suivant les mines, le minerai est concassé au fond ou en surface. Il est remonté par berline dans une cage d'extraction sur un tapis roulant par caisson-container, le skip. Dès 1927, le chargement mécanique fait son apparition. Des chargeuses, transporteuses sont de plus en plus puissantes. Elles sont équipées de moteurs diesel turbocompresseurs. Le remplissage du godet des 16 tonnes se faisait en 10 secondes. L'exor. Dès le début de l'extraction du minerai, l'eau dans les mines posa de sérieux problèmes. Elle arrive de toutes parts. Des moyens importants ont dû être trouvés pour régler le problème de l'exor. Chaque mine devait pomper ses eaux pour ne pas être inondée. L'eau est rejetée dans la rivière ou le ruisseau ou dans des réserves pour alimenter les villages ou villes en eau potable. En 1983, à Droitaumont, La quantité d'eau exorée était de 23,5 mètres cubes pour une tonne de minerai. Soutènement. Toutes les galeries qui sont creusées créent des contraintes. Le toit doit être soutenu. Jusqu'en 1950, le soutènement se faisait par boisage. Toute une technique de chandelle était utilisée, suivant la fragilité du toit. Les chandelles étaient en sapin. Le sapin a la propriété, dès que la pression augmente, de craquer. Suivant la fréquence des craquements, de leur intensité, les mineurs étaient prévenus de l'importance du danger. Les galeries étaient supportées par des chandelles, cadres en bois et dames. Les dames, c'est un empilage de traverses de chêne ayant une grande résistance. Elles étaient utilisées pour assurer une bonne tenue dans le temps. Des essais avec des soutènements métalliques furent réalisés. Dès 1949, le soutènement suspendu ou boulonnage apparaît. Un trou est percé dans le toit d'environ 1,80 m, dans lequel une tige métallique est introduite, d'un diamètre compris entre 16 et 24 mm pour une résistance à l'arrachement entre 10 et 18 tonnes. L'aérage. Plus les galeries avançaient, plus il fallait créer une circulation d'air forcée. C'est vers 1890-1900, avec l'arrivée de l'énergie électrique, que l'on commence à faire face au problème avec l'installation de ventilateurs. Des équipements importants sont mis en œuvre pour des débits allant jusqu'à 300 mètres cubes par seconde pour les grosses unités. Les problèmes se sont trouvés amplifiés avec les moteurs diesel, leur propre consommation d'oxygène, les gaz d'échappement, la poussière, des éboulements, les gaz de tir, les travaux d'entretien rendent l'air irrespirable. La qualité, le débit de l'air fut réglementé, des appareils de mesure de contrôle furent utilisés. L'incendie est un autre problème qui pouvait être catastrophique. La fumée remplit les galeries, les portes de secours étaient munies de masques, des bouteilles d'oxygène et un personnel formé. Les engins étaient munis d'extincteurs. Les risques de la mine ont généré de nombreux accidents. Un service de sécurité a été créé, tout est mis en œuvre pour prévoir l'accident. Des consignes, des affiches de sécurité, c'est la préoccupation de chacun, d'où la création d'un comité d'hygiène et de sécurité. Sainte-Barbe. Sainte-Barbe protégeait les mineurs. Le martyre de Sainte-Barbe remonte aux alentours de 235 dans la ville de Nicomédie, royaume de Bithynie, au nord-ouest de la Turquie, aujourd'hui Izmit. Lorsque son père, Dioscor, riche païen, découvrit que sa fille unique, Barbara, s'était convertie au christianisme, il la décapita. À peine a-t-il commis son crime qu'il est mortellement frappé par la foudre. Sainte-Barbe est associée à la foudre et invoquée pendant les tempêtes. Elle est patronne de tous ceux qui font usage d'explosifs. La statue de Sainte-Barbe de Jarny fut remontée de la mine et placée dans le cœur de l'église Saint-Maximin de Jarny. Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, la cité minière est en effervescence. Tous les mineurs, du cadre à l'apprenti, dans leur tenue du dimanche, suivaient derrière la bannière la statue de Sainte-Barbe, leur patronne, portée par des mineurs en bleu de travail impeccable, avec casque sur la tête et lampe. Après la messe, le cortège, accompagné par la musique, se dirigeait vers la salle des fêtes pour un grand vin d'honneur, et la journée se terminait par un bal. L'entretien. Au début, le mineur possédait des outils rudimentaires. L'évolution de la technologie a développé le service entretien. De nombreux métiers sont représentés. Mécaniciens, électriciens, hydrauliciens, soudeurs, ajusteurs, etc. Affaissement mini. Suivant certaines méthodes, les piliers sont supprimés de façon à extraire le maximum de minerais. C'est le foudroyage, effondrement du toit. L'affaissement est répercuté en surface, affaissement de terrain. Les arbres se penchent, une crevasse peut s'ouvrir, des maisons se fissurer. L'étang de Droitaumont est un exemple d'affaissement minier. Les surfaces habitées, les routes, voies ferrées, ouvrages militaires sont protégés. Les indésirables. Les mines avaient des intrus, les rats. Attirés par la lumière, ils étaient dans les salles de casse-croûte, dans les quartiers, les ateliers. Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Ils quittaient la moindre nourriture et allaient dans les musettes des mineurs. Certains accrochaient leurs musettes à un fil pendu au plafond. Ils étaient la hantise des mineurs. Pour éviter l'accumulation des rongeurs dans les vestiaires, les habits étaient accrochés à des cordes suspendues au plafond. C'était la salle des pendus. Droit au mont, la mine. En 1907, des travaux sont réalisés sur un carreau d'environ 10 hectares, des ateliers et une sous-station électrique sont réalisés. Jusqu'en 1909, des puits de mine sont creusés. Dès 1908, une voie de chemin de fer a été créée, raccordant le carreau de la mine à la ligne Lombi-Nancy. Dès 1910, début de l'exploitation de la mine, de nombreux ouvriers étrangers sont venus d'Italie et de Pologne. Pour fixer cette main-d'œuvre venue en masse, la société Schneider décide de réaliser des constructions coquettes et salubres près de la mine. D'où l'apparition de trois rues parallèles, la rue Gabriel-Péry, la rue Pierre-Brossolette et la rue Jean-Moulin, rue qui était désignée par les premières lettres de l'alphabet, A, B, C. Chaque maison dispose d'une cuisine, d'une pièce à vivre, d'une laverie au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage. Les toilettes sont à l'extérieur. Également d'un jardin individuel. Des pompes à eau étaient situées à espaces réguliers dans chacune des rues. Pour l'époque, c'était un confort très apprécié. Au croisement des rues du Bois du Four et de Bruville, une cantine-café, restaurant, Banel, appelé le Baracon, a été créée par les ouvriers. L'augmentation importante de la population ouvrière à Droit-Thomont a généré de nombreux besoins collectifs. Un lavoir est situé en contrebas de la rue Jean-Moulin. En 1914, un groupe scolaire, construit par la société Schneider, ce groupe remplace une école aménagée dans une maison de la rue C. Il comprend une école de garçons, une école de filles et une école maternelle. L'ensemble scolaire, dans les années 1930, compte plus de 360 élèves. Dans les années 1910, le village de Droit-Thomont a été relié à la gare de Jarny par un omnibus hippomobile. En accord avec la Compagnie des chemins de fer de l'Est, la société Schneider a fait construire aux frais de la mine une gare sur la ligne Longwy-Nancy, inaugurée en 1911. Le marais de Droit-Thomont. En 1953, un affaissement minier se produit. Il forma une cuvette d'une cinquantaine d'hectares proche de l'Iron qui ne tarda pas à se remplir. Le marais de Droit-Thomont était né. Il est pris en compte par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour sa richesse écologique en tant que végétation, plantes emblématiques, oiseaux et insectes variés. Des bénévoles. Le comité de quartier de Droit-Thomont, créé en 2002, a permis de rassembler quelques anciennes gueules jaunes qui ont gardé leur esprit d'équipe. Après un regard sur leur passé, ils ont constaté que leur ancien site de travail, le carreau de la mine de Droit-Thomont, devenait une friche. La nature avait repris ses droits et une décharge sauvage s'instaurait. Ils décidèrent d'en faire un lieu de détente et de promenade. La tâche s'avérait difficile, mais réalisable. Michel, Dany, Jean-Paul, Serge, Polo, Jean, Dominique, avec l'accord de Monsieur le maire, tous les mardis matin, ont entrepris de nettoyer, couper, élaguer, découvrir les chemins, tondre. À l'équipe, il manquait un élément. La mine fonctionnait en étroite collaboration avec la voie ferrée. Michel du chemin de fer arriva et s'intégra dans l'équipe. Les débuts furent difficiles, des heurts avec certains habitués qui n'avaient pas la même conception du devenir du site, mais ils ont su convaincre, puisqu'aujourd'hui, le carreau de la mine est mis en valeur par la municipalité. Si l'état des lieux n'était pas accueillant, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, des surprises agréables attendaient ces bénévoles. Diversité d'arbres, donc d'essence rare, une mare asséchée qui aujourd'hui revit. L'équipe peut être fière de son acharnement, puisque le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s'intéresse au site ainsi que les écoles, même hors de Jarny. Tous les ans, les chantiers jeunes viennent prêter main forte à ces bénévoles du mardi.